D'abord au sujet de l'évangile. Si l'œil de ton corps est saint, quelle lumière ce sera? Mais si ton œil est ténèbre, alors quelle ténèbre ce sera? Souvent, on comprend cet évangile de la manière la plus simple, c'est-à-dire si on a l'œil pur, à ce moment-là, rien de mauvais n'entre dans notre cœur. Alors que si on regarde des choses mauvaises, ces choses mauvaises rentrent dans notre cœur et nous tentent. Il n'y a pas à contester cette analyse-là, elle est juste aussi. Mais précisément, il me semble qu'il faille aller plus profondément dans la compréhension de cet évangile. Comme j'essaie de vous montrer souvent, qu'il y a plusieurs facettes dans l'évangile. Et une première facette qui est obvie, qui est simple, qui est naturelle, si je puis dire, et qui est horizontale. Et une autre facette, facettes qui sont cachées, qu'il faut découvrir, mais qui sont en notre pouvoir de découvrir parce que nous avons reçu l'Esprit Saint. Et une de ces choses-là au sujet de l'évangile d'aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous dit que notre œil est la lampe de notre corps. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir un œil pur pour voir des choses pures et pour faire entrer les choses pures dans notre cœur, mais qu'en plus c'est cet œil-là qui illumine notre cœur. Il n'est pas simplement un écran, il n'est pas simplement un organe de vision, mais il est un organe d'illumination. De quelle illumination il s'agit? Eh bien, comme à propos de ce que je vous dis sur les facettes différentes de l'évangile, avec notre œil, il est possible de voir les choses, de voir les facettes des choses, les facettes de la vie, ou d'une manière ténébreuse, ou d'une manière lumineuse. Regardez par exemple, vous pouvez regarder la liturgie comme un temps de prière animé par des rites liturgiques et des chants liturgiques en communion les uns avec les autres, que l'on offre à Dieu. Ça, c'est une possibilité. Mais quelle ténèbre! Si la liturgie n'est que ça, quelle ténèbre! Alors que si vous avez un œil illuminé, un œil qui vous amène la lumière, vous voyez que cette même liturgie est une participation, est une vision, est une perception sensible et spirituelle de la vie éternelle, de la présence de la présence de Dieu, de notre présence avec les anges et avec tous les saints, et de la présence des anges et tous les saints avec nous. Vous voyez les deux manières de voir d'une manière ténébreuse ou de voir d'une manière lumineuse. Il en est de même pour les jugements, la vision que l'on peut avoir les uns des autres. On peut regarder l'autre avec un œil ténébreux, c'est-à-dire un œil qui n'apporte pas la lumière mais les ténèbres, c'est-à-dire voir l'autre avoir ses défauts, voir comment il nous embête, comment il prend notre place, comment il marche sur nos pieds, comment ce qui engendre la jalousie, ce qui est... qui suscite l'orgueil de notre côté. Il y a une autre manière lumineuse, c'est de voir l'autre comme le représentant de Dieu, comme un autre membre du corps du Christ, comme un être avec lequel je suis en communion et avec lequel je dois favoriser, moi, la communion avec lui, même si éventuellement lui ne la favorise pas. Il y en a de toutes choses. On peut voir avec l'œil non lumineux, l'œil ténébreux, on peut voir l'Église comme une société humaine, organisée, certes, plus ou moins avec sous l'ordre du Christ, avec la fonction des apôtres qui s'est perpétuée jusqu'à nos jours, où on peut la voir comme un corps vivant. Et là, il s'agit de voir les choses autrement, de voir les choses avec notre œil lumineux, cet œil qui nous a été donné, qui nous a été ouvert, plus exactement, par la réception de l'Esprit Saint au moment du baptême. Le baptême, n'est-ce pas, c'est un sacrement, ça je ne l'apprends à personne, mais le baptême est le sacrement de la foi. Ce n'est pas simplement l'effacement du péché originel, je ne sais quoi encore, toute explication juste par ailleurs, mais c'est essentiellement le sacrement de la foi. En recevant, en étant plongé dans l'eau du baptême, en recevant la Sainte Eucharistie, et en recevant, en ayant reçu l'Esprit Saint par la chrismation, nos yeux intérieurs s'ouvrent, les écailles de nos yeux sont enlevées et nous permettent d'accéder à une connaissance, à une vision des choses que ceux qui n'ont pas été baptisés, qui n'ont pas reçu l'Esprit Saint, ne peuvent pas voir. Ils restent à la vision horizontale des choses. On pourrait épiloguer pendant des heures et des heures pour montrer à toute chose de la vie comment se manifeste, mais à quoi sert cet œil lumineux. Mais prenons la décision, tous, parce qu'elle est toujours à reprendre dans notre vie, au fur et à mesure que nous avançons. Prenons cette décision de regarder les choses d'une autre manière, d'une manière lumineuse. Regardez par exemple, qu'est-ce que c'est pour nous la religion ? Est-ce que c'est des obligations que Dieu nous a données de lui rendre un culte, de vivre d'une certaine façon dite morale et d'écarter de nous ce qui justement n'est pas moral ? Et est-ce que c'est une obligation de venir à la liturgie le dimanche et puis un point, c'est tout? Est-ce qu'on fait de Dieu un espèce de Père Noël qui a un tas de cadeaux dans sa hotte et auquel on lui demande, allez, donne-moi mon bac, donne-moi mon brevet, donne-moi ceci, donne-moi cela? Si on fait ça de Dieu, qui est notre Dieu? Voyez bien que c'est un œil ténébreux qui nous fait voir cet aspect-là. Alors que si on a un œil lumineux, celui qui nous a été donné, qui nous a été ouvert par le baptême, la chrismation et que l'on alimente, qu'on purifie régulièrement par la réception de l'Eucharistie, qui est la communion à tout cela, justement, notre Dieu représente pour nous une relation. Ce n'est pas que la relation qui soit Dieu, c'est que notre relation nous conduit à Dieu, nous mène à Dieu et nous donne Dieu. Je me suis mal exprimé. Mais justement, notre vie chrétienne est une vraie vie, pas une obligation. Une vie, un rapport que nous avons avec quelqu'un qui nous dépasse, celui qui nous a créés, celui qui s'est abaissé jusqu'à prendre notre vie, pour que nous apprenions à porter sa gloire et sa divinité. Vous voyez que ça a une autre dimension. Pour la plupart d'entre nous, certainement, nous nous sentons pécheurs. J'espère que tout le monde le sent. Parce que nous le sommes. Par notre condition même si nous ne tombons pas dans le péché, puisqu'il y en a, j'espère qu'il puisse il y en avoir parmi vous qui n'y tombent pas, mais ce n'est pas sûr. Mais de toute manière, nous sommes de nature devenus pécheresses. Qu'est-ce qu'on va faire de notre foi, de notre religion, de notre appartenance à l'Église? Si on a un œil ténébreux, on va se lamenter en permanence. Je ne dis pas qu'il ne faille pas se repentir. Mais le repentir, précisément, c'est d'apprendre à avoir un œil lumineux qui illumine notre vie. Et si on n'a pas cet œil-là, on va se lamenter de dire là, que je suis pécheur, je suis loin de Dieu, je peux pas le connaître avec tout ce que j'ai fait, que je suis prêt à recommencer. Vous croyez qu'on va passer toute notre vie à se lamenter alors que Dieu est à côté de nous, alors que Dieu se donne à nous? Certes, on est pécheur, mais si on a un œil lumineux, on ne va pas regarder, on est conscient de notre péché, mais on ne va pas regarder que notre péché, on va se détourner de notre péché pour regarder la gloire de Dieu et regarder ce Dieu qui nous aime et qui nous accorde sa miséricorde. C'est tout cela que signifie avoir un œil lumineux. Et dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui, le Christ nous dit aussitôt après, suivant l'évangéliste, et souvent on coupe, hélas, on coupe les deux passages comme si c'était des paroles qui n'avaient presque pas de lien entre elles, alors qu'il y a un lien profond. Juste après, il dit, mais vous pouvez pas, on ne peut pas servir deux maîtres, Dieu et Mammon. Souvent, on traduit Dieu et l'argent. Mammon, c'est pas que l'argent. Même ceux qui n'ont pas d'argent peuvent être attachés à Mammon. Mammon, c'est le représentant, en quelque sorte, si vous voulez, presque divinisé, de l'attachement au bien terrestre. Et notre œil ténébreux nous ferait nous attacher à toute chose de la terre, toute vision même terrestre. Et on ne peut pas à la fois avoir un attachement pour les choses terrestres, pour la vision humaine ou humaniste, je ne sais pas comment vous le dire, de la foi, de notre rapport avec Dieu et de notre rapport les uns avec les autres, et en même temps prétendre chercher et trouver Dieu. On ne peut pas. Ou on regarde les choses avec notre œil ténébreux, on regarde les choses d'une manière horizontale, comme si la vie n'avait pas d'autre but que les quelques années, 72 ans en plus que nous passons sur Terre, ou moins éventuellement. Mais elle est une introduction dans le royaume des cieux. Et une introduction qui nous fait participer, qui nous fait sentir, ou qui nous fait pressentir, si vous voulez, aujourd'hui, chacun selon son degré d'illumination, mais tous, tout de même, sinon nous ne serions pas chrétiens, qui nous fait pressentir cette vie du royaume des cieux qui existe déjà aujourd'hui. Et ceci m'amène à la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est éveiller votre œil lumineux sur un aspect de la liturgie, un aspect pratique de la liturgie. Au moment de ce qu'on appelle l'anaphore, c'est-à-dire qu'après que le prêtre se soit retourné vers les fidèles, élevons notre cœur, nous les envoyons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur. Hein? Il est digne et juste, voilà, c'est ça. Et le célébrant commence cette magnifique, extraordinaire prière consécratoire qu'on appelle l'anaphore. Et cette anaphore se poursuit. Je n'ai pas le texte par cœur sous les yeux, vous savez bien que quand j'essaie de le dire par cœur en dehors de la liturgie, je n'y arrive pas. Se poursuit avec le Saint Dieu, Saint Fort, Saint Immortel, Saint Saint Saint, le Seigneur Sabaoth, c'est pareil, Saint 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 Sabaoth, puis les paroles de l'institution, ceci est mon corps, ceci est le Seigneur prit du pain dans sa pain pur immaculé, et le bénit, le sanctifia et donna à ses disciples, etc. Puis la demande de l'Esprit Saint pour qu'il vienne changer ce pain en corps du Christ, ce vin en sang du Christ, les gens par l'Esprit Saint, l'anaphore se continue pendant que les fidèles chantent, rendant grâce à Dieu du miracle extraordinaire qui est en train de s'accomplir sous leurs yeux, s'ils ont l'œil spirituel, l'œil lumineux. Et pendant que les gens, le prêtre continue toute cette anaphore en faisant mémoire de Saint Jean-Baptiste, des saints dont on célèbre la fête aujourd'hui, des défunts qui sont les nôtres. Or, les défunts qui sont les nôtres, les défunts, ça remonte à loin, c'est pas simplement grand-père et grand-mère, c'est tous ceux qui remontent jusqu'à Adam. Commencez à voir que cette anaphore, après avoir rappelé les merveilles que le Seigneur avait fait dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament par l'incarnation de son Fils, événement qui culmine avec la consécration que le Christ fait de ce pain en son corps et du vin en son sang, ça c'est le point culminant qui s'accomplit pour nous par la réception de l'Esprit Saint qui vient nous changer et qui vient changer le pain et le vin encore et sans. Cette prière se continue, cette consécration se continue par la mention, par la mémoire, c'est-à-dire par la prise de conscience de la présence réelle, pas simplement du souvenir, mais de la présence réelle de tous ceux que l'on commémore, Saint Jean-Baptiste, les saints de l'église où l'on célèbre, et finalement tous les saints du jour, puis tous les saints de l'église tout entière, et puis les défunts, etc. Tout ça, on sent que c'est rassemblé en une seule prière. C'est vraiment le miracle le miracle qu'a voulu le Seigneur en venant sur terre, de récapituler, de rassembler toute la création avec ce qui est justement incréé, la création avec l'incréé, la création avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, tout à fait, presque à la fin de cette extraordinaire anaphore, les prêtres, les concélébrants, disent ensemble, en premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre archevêque un tel. Accorde-lui vie, paix, santé, longue vie et prospérité. Une fois de plus, je ne me rappelle pas par cœur en deux. Pourtant, c'est normal, je dis en grec aujourd'hui alors. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que, tout du moins dans le rite grec, parce que les Russes le rite slave ne le fait pas, mais dans le rite grec, tous les prêtres ensemble disent en premier lieu, souviens-toi, Seigneur notre archevêque. C'est après avoir raconté toutes les merveilles, après nous être rendus présents à toutes les merveilles que le Christ a fait, que Dieu a fait à notre sujet, depuis la création jusqu'à son incarnation. Et la donation de l'Eucharistie, après avoir réuni tous les vivants et tous les morts dans son corps, on vient sceller ceci par la proclamation, les souhaits, non seulement de bonne santé, mais souhaits de sainteté pour notre évêque, notre archevêque, suivant chacun. Ce qui est la manière de montrer que toute l'Église est rassemblée et scellée, par une clé de voûte en quelque sorte, par la présence de l'évêque. C'est l'évêque qui, représentant le Christ, et étant uni à tous les autres évêques, évidemment, et à toute l'Église, manifeste l'unité de l'Église. Et l'unité de l'Église, c'est précisément ça, le miracle de l'Eucharistie. Laisse-le faire, c'est pas grave. Le but de l'incarnation, donc le but de l'Eucharistie, c'est de faire du cosmos tout entier de le faire uni en Christ, lequel est le début et la fin, l'alpha et l'oméga. Et avec l'invocation pour en premier, souviens-toi, c'est notre archevêque, l'Église manifeste sa plénitude à ce moment-là. Voilà pourquoi il est important de le dire ensemble. Dans la liturgie, si je ne me trompe pas, c'est le seul moment où les prêtres disent ensemble et tout haut quelque chose. Sinon, il y en a un qui dit en représentant les autres, tous, ils sont associés, bien sûr, j'espère, sinon la liturgie ne serait pas valide. Mais là, pour en premier lieu, souviens-toi, Seigneur, de notre archevêque, un tel, ça, tous les prêtres le disent ensemble, c'est vraiment c'est pas le sommet du mystère qui est en train de s'accomplir, mais c'est le signe que ce qui nous est promis, ce qui nous est annoncé, ce qui est proclamé par cet homme se réalise réellement. Après, que l'évêque ou l'archevêque que l'on commémore soit digne ou indigne, ça ne nous regarde pas. Ça, c'est son problème, c'est pas le nôtre. Le sacerdoce qui est le sien ne lui appartient pas en propre, c'est le sacerdoce du Christ. Donc, c'est pas, on n'a pas à juger de ça. Et rien n'est plus douloureux, n'est plus anormal quand on entend des personnes dire, quelquefois d'une manière plus ou moins justifiée, mais quand on a un œil qui n'est pas lumineux, ah ben moi je ne peux pas assister à la liturgie avec ce prêtre-là parce que je sais qu'il est indigne, ou alors avec l'évêque qu'ils ont, il est complètement indigne. Est-ce que l'évêque, est-ce que le prêtre a la foi de l'Église? S'il a la foi de l'Église, il est l'Église. Après, son salut personnel, sa dignité personnelle, ça c'est son rapport avec Dieu qui est. Mais ça n'influe pas sur la réalité du sacrement.